Ok, on va aller dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, les versets 4 à 7. Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. J'ai donné comme titre au message d'aujourd'hui, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Donc, on va regarder le texte sous trois angles différents. Le premier angle, on va regarder « Réjouissez-vous, le devoir de la sainte joie ». Le deuxième point qu'on va regarder, le verset 5, « Réjouissez-vous, les résultats de la sainte joie ». Et le troisième point qu'on va regarder, « Réjouissez-vous, l'expression de la sainte joie », les versets 6 et 7. Alors, on va commencer par lire le passage de Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. OK, on va commencer par lire le texte qu'on veut exposer aujourd'hui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous remarquerez que le verset 4 dit « Réjouissez-vous toujours ». Ça peut créer un petit problème dans notre esprit. On vit des épreuves, on vit des difficultés, on souffre pour toutes sortes de raisons. Et là, la Bible nous dit, c'est pas, il nous invite pas à se réjouir. Il nous commande de nous réjouir. Mais là, on peut dire, ben oui, mais quand j'ai un problème, que ça va pas bien, et que je vis des difficultés, des épreuves, ça fait mal, là, ça dit pas quand ça te tentera ou quand tu seras dans un bon état. Toujours, il y a quelque chose qui vient nous chercher, qui vient nous faire réfléchir. Alors, ça peut poser un problème dans nos vies quotidiennes parce que nous raisonnons ainsi. Comment puis-je vivre dans la joie quand je suis dans les épreuves, dans la tristesse, dans les souffrances physiques, psychologiques ou spirituelles? Comme on le sait tous dans nos vies, les épreuves sont nombreuses, les épreuves sont régulières, les épreuves sont diversifiées et varient beaucoup dans leur intensité. On est tous au courant de ça, je pense. Alors, est-il réaliste de croire que nous pouvons se réjouir, et ceci toujours, comme le dit le verset? Alors, si je vous laisserais répondre dans votre tête, là, je vous pose la question, est-ce que c'est possible de se réjouir toujours dans le Seigneur? Je vous laisse répondre. Je crois, personnellement, que la réponse est oui, un grand oui, et elle se trouve dans les mots « dans le Seigneur ». Comment qu'on déciderait du jour au lendemain d'être joyeux, puis d'être dans la, de me réjouir? C'est bien beau de prendre une décision dans ta tête, mais il faut que quelque part, ça prenne racine quelque part. Alors, dans Jacques, au chapitre 1, les versets 2 et 3, dans la version seconde 1910, ça dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Je la reprends parce que ça va la peine de la reprendre. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Autrement, si quand le Seigneur nous envoie des épreuves, on n'est pas supposé d'être down. Ça nous dit qu'on se devrait de considérer ça comme un sujet de joie complète. C'est des versets qui sont forts, hein, mais on veut être réfléchis un petit peu. Examinons avec un peu plus de profondeur le sujet de ce qu'on pourrait appeler la sainte joie. Elle est d'abord un devoir, parce que ça nous dit, le verbe est en impératif, EZ, dans les Écritures, quand il y a Eugène, c'est toujours l'impératif, c'est un commandement, c'est un ordre. Puis, nous allons voir quels seront ses résultats si nous la vivons. Et enfin, nous constaterons comment elle s'exprimera dans notre vie quotidienne. Alors, on reprend le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et là, il répète, je le dis encore. Il le répète, réjouissez-vous deux fois, juste dans un petit verset. À quelque part, je pense qu'il y a un message pour nous autres très important. Le verbe réjouissez est à l'impératif. Il se termine par EZ, qui indique un ordre auquel il faut se plier. Alors, c'est là que ça pose problème dans notre esprit. Il nous commande de se réjouir, puis nous, dès qu'il nous arrive une épreuve, une difficulté, une souffrance, on perd de joie. C'est peut-être parce qu'on n'est pas dans le Seigneur. Je pense que c'est là qu'il le problème. Alors, on peut facilement vivre dans la joie lorsque tout va bien et que nous expérimentons des moments de bénédiction dans nos vies. Mais cela se transforme rapidement en quelque chose de difficile lorsqu'arrive. Là, je vais en nommer, je n'aurai plus la liste d'en faire très bien, beaucoup plus long que je vais, de ce que je vais vous nommer. Mais je vais les nommer et ça va nous donner une idée. Ça devient difficile lorsqu'arrivent les afflictions. Une affliction, c'est quelque chose qui nous rend triste. C'est quelque chose qui est profond, un abattement, une détresse que l'on vit suite à des expériences dans notre vie de tous les jours qui sont difficiles. Donc, ça devient difficile dans les afflictions. Ça devient difficile dans les douleurs. Quelles sortes de douleurs? Douleurs physiques, douleurs psychologiques, douleurs spirituelles, peu importe. Et les douleurs, c'est une émotion qui est pénible, qui résulte d'un manque, d'une peine ou d'un événement malheureux. Et on expérimente tous ça, il n'y a pas une exception sur la terre, je suis convaincu. Tous les enfants de Dieu connaissent les afflictions, connaissent les douleurs. Une autre chose qui peut rendre la chose difficile de toujours se réjouir dans le Seigneur, c'est les maladies. On le sait, quand on est malade, peu importe le type de maladie, même si c'est une maladie légère, il y a des maladies légères, il y a des maladies graves, souffrantes, qui sont très difficiles à endurer. Alors, les maladies. Autre chose qui peut rendre notre d'acceptation et de vivre l'ordre que le Seigneur nous donne de se réjouir toujours, c'est aussi l'immortalité. Je pense qu'il n'y a pas un d'entre nous qui n'a pas connu ce que c'est les douleurs liées à la mortalité. Moi, je me souviens d'une façon particulière. Quand ma mère est décédée à Lac-Mégantic. Elle est décédée dans un accident d'autobus et on était au salon Lac-Mégantic, au salon de Jacques et Frère. Dans ce temps-là, c'était Jacques et Frère. Ma sœur, on a vécu 2-3 jours. Dans ce temps-là, ça durait 2-3 jours. On était devant le... Et c'était pénible. Ma sœur s'est bien comportée durant tous ces 2-3 jours. Mais à un moment donné, quand M. Jacques est venu, puis il a dit, bon, là c'est le moment de fermer la tombe. Là, elle sentait que là, c'était comme, c'était final. Ma sœur, elle a lâché un hurlement, je l'entends encore dans ma tête tellement c'était déchirant. J'ai trouvé ça déchirant de voir comment elle souffrait, puis comment elle transmettait sa souffrance à ceux qui entouraient la famille et ceux qui étaient là, il y avait quand même pas mal de monde, à hurler. Fait que l'immortalité, on va tous en vivre, on a tous vécu, puis on va tous en vivre encore. Il arrive des moments, disons que tu perds ta femme. Ça fait 30 ans que tu es avec. Puis elle est fine, elle est gentille. Puis elle a une dent en or, elle pas. Quand on perd un être cher, ça nous déchire. Et là, si là, on demande à quelqu'un quand il est en train de vivre ça, est-ce que c'est possible de se réjouir dans le Seigneur? Après ça, tu as la lassitude. La lassitude, c'est quand on vient tanné de tout, on est fatigué, on a juste le goût de tout lâcher, on est brûlé, comme on dit. Alors, c'est vraiment un abattement qui est mêlé d'ennui, de découragement, de fatigue, d'épuisement ou de dépression. Quand on vit toutes ces choses-là que je viens de vous nommer, si je vous approche et je vous dis « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », si vous dites « Hey, va parler ailleurs, là, c'est pas le temps, là. » Et il y a aussi les déceptions. Dans la vie, des déceptions, on en vit continuellement, de toutes sortes. Ça peut être dans notre famille, ça peut être nos amis, dans le milieu de travail. On vit des déceptions et c'est difficile. Et là, je vous ai nommé une série, mais je suis sûr que je pourrais allonger la liste de beaucoup. Autrement dit, ça m'a fait penser à un verset quand j'étais en train de préparer ça. Je disais, te souviens-tu du verset où est-ce que ça dit que l'homme est né pour souffrir? Elle dit, je pense que c'est dans tel livre, je pense que c'est dans tel livre. Ce que j'ai fini par me trouver, c'est le verset suivant, c'est Job, chapitre 5, verset 7. Ça dit, l'homme naît pour souffrir comme une étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir, autrement dit, c'est le lot normal des hommes de souffrir presque continuellement. Il dit, c'est comme quand tu fais un feu, il y a des étincelles qui se mettent à voler. Quand on fait du camping, on voit ça souvent, on s'assied devant le plomb, on voit des étincelles qui montent. Ben, il dit, l'homme est fait pour souffrir de la même manière que les étincelles vont se mettre à s'envoler quand on va faire un feu. Donc, à quelque part, la réjouissance nous est commandée par le verbe « réjouissez-vous dans le Seigneur ». Mais là où ça complique un peu l'affaire, c'est quand ça nous dit « la réjouissance nous est imposée en tout temps ». C'est là que le problème se pose, parce qu'on se dit « voyons donc ». Quand je viens de perdre un être cher, ou quand je viens de perdre ma job, ou que j'ai des problèmes financiers jusqu'à perdre sa tête, ou des styles comme ça, vous croyez que c'est possible quand on vit des choses comme ça d'être quand même dans la joie du Seigneur? Oui, c'est possible. Le mot toujours est particulièrement imposant, car il ne laisse pas de place aux circonstances, à notre tempérament, et à nos douleurs pour nous excuser de ne pas vivre dans la sainte joie. Nous pourrions avoir tendance à réduire l'intensité et la durée de cet ordre en nous disant que c'est impossible. C'est impossible. Cependant, la Bible nous donne des exemples que cela est possible. Et là, on prend l'exemple qu'on a de l'apôtre Paul, qui est un chrétien qui a connu les épreuves, à des degrés énormément plus élevés que nous autres, qui a connu des choses qu'on ne connaîtra jamais. Et regardez, je vais vous donner un exemple, on pourrait en choisir d'autres. On va avoir juste le acte 16, versets 22 à 25. Autrement dit, il venait d'être pogné par les Romains, puis il l'avait fouetté. Quand t'es fouetté, là, ce temps-là, les Romains, ils n'allaient pas qu'à d'où la cuillère, là, ça frappe fort. Il se ramasse en prison, le dos à moitié en sang. La nuit, il chante les merveilles de Dieu. C'est-tu normal? C'est pas normal. Alors, je vous relis les versets 22 à 25 de Acte 16. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Les sceptres, des morceaux de fer, on t'accrochait après ça, t'as moyen de bouger là-dedans. Vers le verset 25 nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Imaginez, vous vous êtes fait pogner par les Romains, on vous a frappé jusqu'à vous ensanglanter le dos. Puis toi, il était avec, je sais pas si Silas avait eu la... jamais vérifié si Silas avait eu le même traitement, en tout cas, peu importe. Lui, Paul, qui avait connu des souffrances dont nous ne connaîtrons jamais, et lui, en plein milieu de la nuit, il chante les louanges au Seigneur. Qu'on vienne pas me dire que c'est pas possible d'être dans la joie, même si on subit des traitements extrêmement cruels par les hommes. Et dans le verset 4, la troisième idée que je vais amener, c'est la réjouissance, elle est possible, mais seulement dans le Seigneur. Lorsqu'arrive l'épreuve et ses souffrances, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes et à nous apitoyer. N'est-ce pas? L'apitoiement. Oh, mon petit moi, je souffre beaucoup, personne ne pense à moi. Oh. On est centré sur nous. Parce que là, on perd le seul repère qui peut nous amener quelque consolation que ce soit, le Christ, Jésus, notre Sauveur. Il est toujours disposé à venir nous donner sa tendresse, son amour, sa miséricorde. Mais nous, dans ce temps-là, on est porté à s'apitoyer sur soi-même et à, tu sais, ça nous dit garder les yeux sur Christ. Et si on enlève les yeux sur Christ, vous pouvez être certain que ça va être l'apitoiement, ça va être le découragement et toutes sortes de choses semblables. La seule façon de retrouver sa joie est dans le Seigneur. Nous devons alors concentrer notre pensée sur Jésus-Christ. Deux choses, ce qu'il est et ce qu'il a fait. Ce qu'il est, est-ce qu'il y a un homme aussi savant qui a remis sur un doctorat en théologie qui peut parler du Christ et le monter à la hauteur qu'il méritait? Je ne sais pas si vous connaissez Paul Washer, un prédicateur américain très connu, qui se promène partout à grandeur aux États-Unis. C'est un prédicateur hors classe. Vraiment, il est un top, comme on dit. Une fois, il avait dit à quelqu'un, j'aimerais tellement ça que le Seigneur me donne une fois dans ma vie de parler de lui convenablement. Il y en a un qui a dit, oublie ça, tu n'y arriveras jamais. Pourquoi? Parce que la personne de Christ est infinie. Peu importe ce qu'on dira de bien de lui, on n'arrivera jamais à le décrire tel qu'il est. Donc, on a besoin de nous rappeler qui il est dans sa personne, dans sa divinité, dans l'ensemble de ses attributs, qui sont tous les attributs de Dieu, les attributs divins. Et on a le devoir aussi de se souvenir de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans le ciel avec le Père, et il s'est humilié en venant s'incarner dans une chair d'homme. Il a vécu sa vie, les 20 premières années, on n'en sait pas grand-chose, mais sa vie publique. Il a reçu des mauvais traitements des hommes, malgré toutes les bontés qu'il a faites aux hommes, sans arrêt. Et on l'a crucifié, et on lui a fait subir le châtiment que le Père, Dieu, le Père, lui a fait subir le châtiment que nous aurions dû avoir sur la croix. Il lui a fait subir à lui une douleur que même si vous essayez de méditer sur la souffrance qu'il peut y avoir là-dedans, on ne peut pas. Parce que c'est trop grand pour nous. On ne peut pas vraiment comprendre. Et non seulement il a fait ça, il a subi le châtiment, il l'a fait volontairement, il l'a fait par amour, par miséricorde pour nous. Mais en même temps, il a accompli la deuxième exigence que le Père avait qu'on puisse vivre en sa présence. Celle d'avoir accompli à la perfection la loi de Dieu. Le décalogue. Autrement dit, d'avoir, si jamais vous faites une étude sur le décalogue, sur les 10 commandements de Dieu, vous allez voir que c'est extrêmement profond ce que le Seigneur nous demande. Autrement dit, il te demandait que tu n'aies pas manqué une seule fois, ni dans tes pensées, ni dans tes paroles, ni dans tes actions, ni aucune omission, l'obéissance parfaite. Personne n'a jamais fait ça. Moi, en tout cas, j'ai pas besoin d'examiner toute ma vie. J'ai juste besoin d'examiner aujourd'hui. Même depuis que je suis levé. Quelqu'un qui me dit que depuis qu'il est levé, il n'a pas fait un péché, j'ai un grand doute dans mon esprit. On pêche, mais si Jésus n'avait pas accompli à notre place l'obéissance parfaite à la loi, on ne pourra pas vivre en sa présence. Donc, il y avait deux problèmes. Il fallait que notre péché, quelqu'un paye pour. Puis, il y avait un autre problème. Il fallait rencontrer les exigences divines qui étaient l'obéissance parfaite à la loi. Personne n'avait jamais fait ça. Alors, le salut, c'est quand on reçoit cela et qu'on prend conscience de ce que Christ a fait pour nous. Quand il arrive nos petites circonstances, je les appelle petites parce que comparativement à ce que Christ a subi, sont vraiment petites, sont vraiment minuscule. Alors, pensez, regardez en haut et réfléchir à ce qu'il est comme personne et réfléchir aussi à ce qu'il a fait. Ça, on ne le fait pas tellement. Ben, en fait, quand on lit régulièrement dans l'Écriture, ça nous revient à l'esprit. Alors, il nous faut méditer sur plusieurs choses si on veut replacer nos esprits sur Christ. Pour méditer sur son incarnation. Là, je vais aller rapidement, mais on pourrait faire un sermon sur chaque mot. Sur ses souffrances de toutes sortes. Les souffrances qu'il a subies, tous les mauvais traitements qu'on lui a fait subir sur la terre, toutes les ingratitudes, toutes les accusations fausses. Son œuvre substitutive à la croix, c'est vraiment la question de ce qu'on appelle en théologie l'obéissance active, l'obéissance passive. L'obéissance active, c'est qu'il a accepté d'accomplir la loi, la perfection à notre place. C'est pour ça qu'on appelle ça substitutif. Il a accepté, eux autres sont pas capables de le faire, moi, de le faire à leur place. Puis s'ils croient, ça va être mis sur leur compte. Puis la même chose sur quand le Père juge nos péchés à son Fils. Son Fils était parfait, il n'avait jamais manqué une seule fois dans sa vie. Il n'a pas fait un seul péché dans toute la vie qu'il a vécu sur la terre. Mais si on lui a fait subir, imaginez juste la crucifixion, c'est quelque chose, apparemment c'était la mort la plus cruelle, mais ça c'était la partie physique, mais la partie spirituelle, c'est le fait qu'il prenait sur lui nos péchés et qu'il recevait volontairement la punition que ça aurait dû nous, et il lui fait subir à son Fils. Donc, sa mort, sa résurrection, son ascension, son intercession perpétuelle pour les élus. Quand on se met à penser à l'œuvre de Christ, quand on vit des difficultés, je vous garantis qu'il y a quelqu'un qui se met à réfléchir vraiment à chacun de ces points-là. Ces petites douleurs, ils oublient vite, puis ils replacent tout son regard sur Christ. Son humilité, son altruisme, son saint courage, son amour, sa douceur, sa sympathie, sa puissance, sa gloire, sa majesté. Autrement dit, quand on se met à avoir des problèmes, la seule façon de vous en sortir puis de retrouver votre joie, puisque les Écritures vous commandent d'être joyeux, il n'y a pas d'autre solution que de replacer tous nos esprits ou nos intelligences en Jésus-Christ. Voyez-vous, dans le psaume 94, verset 19, ça dit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » On peut aller chercher la réjouissance dans toutes ces pensées. Le psaume 104, verset 33, « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel. » On ne peut pas se réjouir ailleurs qu'en l'Éternel. Parce que si on se fie à notre tempérament, si on se fie à nos circonstances extérieures, on va toujours être malheureux. La Bible nous dit que c'est possible qu'on soit dans la joie, mais si c'est possible qu'on soit dans la joie, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on attend pour voir des sourires sur tous les visages qu'on y a dans n'importe quelle église? Ça serait censé être ça. Mais est-ce que c'est ça que vous voyez? Non, pas ça qu'on voit. Parce qu'on est trop centré sur notre nombril, qu'on a enlevé de nos regards sur la personne de Christ. Dans le verset 5, on va regarder maintenant, « Réjouissez-vous les résultats de la sainte joie. » Dans le verset 5. On dirait que c'est comme déconnecté du verset 4, mais pas du tout. Ça dit « Que votre douceur soit connu de tous les hommes, le Seigneur est proche. Quand on vit dans l'épreuve, dans la douleur, qu'on ne file pas comme on dit, n'est-ce pas qu'on n'est pas porté à être très social? Puis on sera même porté à être un petit peu aigri, puis répondre aux autres, avoir un comportement avec les autres qui est difficile, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Lorsque nous vivons des épreuves, nous pouvons développer de l'amertume, une volonté d'isolement. Un peu comme un animal, quand il se fait mal, qu'est-ce qu'il fait? Ça va se cacher, il se liche. Bien, nous autres, on a un petit peu cette tendance-là. Alors, on développe l'amertume, on a une volonté d'isolement, et on peut vivre une tristesse excessive. La Bible ne nous dit pas qu'on n'a pas le droit d'être triste. Mais elle nous dit qu'on ne devrait pas avoir des tristesses excessives. Le mot douceur, parce que quand on regarde, on voit dans les commentateurs, de ceux qui connaissent le grec, tout ça, est-ce que c'est le mot douceur en voulant dire « Oh, lui, il est bien doux, il est bien gentil, il est bien agréable. » Le mot douceur peut aussi vouloir dire « modération ». Autrement dit, que votre modération, dans l'épreuve, qu'elle soit connue de tous les hommes. Même quand quelqu'un vit quelque chose de difficile, on sera censé de voir visiblement, palpablement, que la douceur soit connue de tous les hommes. Vous rentrez dans l'assemblée, tout le monde devrait s'en rendre compte. Non seulement dans l'assemblée, mais quand ça dit tous les hommes, c'est plus que toute l'assemblée. C'est tous les hommes devraient se rendre compte que votre manière de réagir aux épreuves que Dieu vous envoie, si vous avez votre focus à la bonne place, sur Christ, vous pouvez retrouver votre joie. Non seulement vous pouvez, mais vous devez. C'est ça que le verset nous enseigne. Que votre modération soit connue de tous les gens. Autrement dit, faites en sorte que les autres puissent la voir, votre modération, votre douceur. Cela ne veut pas dire qu'on devrait en faire ce qu'on appelle une démonstration ostentatoire, dans le style « regardez-moi comment je vis ça ». C'est pas ça. Mais que cela devrait être une caractéristique de notre vie, telle que qu'elle serait constamment visible pour les autres. C'est quand même 44 ans que je vis dans des églises, j'en ai vu toutes les couleurs. Je peux vous dire une chose, je n'ai pas vécu souvent dans des églises où on rentre et qu'on voit tout le monde dans la joie. On voit bien plus des visages dans l'abattement, des visages dans la tristesse, des visages dans la dépression. Le mot modération fait référence à la retenue sur les passions, à la sobriété générale de vivre, à être libre de tout excès. Quand on vit des moments difficiles, on peut facilement tomber dans des excès de toutes sortes. Alors, il devrait contenir leur tempérament et être des exemples de ce qui convenait aux gens, dans l'espoir que le Seigneur apparaîtra bientôt. Et la deuxième partie du verset, que votre douceur soit connue de tous les hommes, ou que votre modération soit connue de tous les hommes, ça dit, le Seigneur est proche. Là, on peut l'interpréter de deux façons, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche dans le sens que, à cause de son omniscience, il connaît de façon absolue toutes les choses dans lesquelles vous traversez, il les connaît. Plus qu'il les connaît, c'est lui qui les envoie. Alors, autrement dit, il faut se souvenir, quand il a dit « Le Seigneur est proche », il ne nous a pas oubliés. On est tellement, quand on vit quelque chose de difficile, on est tellement porté. « Mais pour moi, là, le Seigneur, il m'a oublié. Je suis plus là. Coudonc, je suis son enfant, je prie, mais il ne répond pas. » Il va répondre en son temps, à sa façon. Nous autres, on voudrait qu'il réponde tout de suite de notre façon. Le Seigneur est proche. Donc, le mot proche peut avoir deux sens. Le sens qu'il est omniscient et omniprésent, Il n'y a pas un enfant de Dieu dans le monde, qu'il soit en Asie, qu'il soit en Afrique, qu'il soit dans quelques continents, en quelques villes, que ce soit même dans le fond dans le bois, comme on dit. Le Seigneur dans la bouche. Le Seigneur sait tout sur tous ses enfants, et non seulement sur tous ses enfants, mais sur tous les hommes, en tout temps. Le Seigneur est proche, il nous connaît, il sait ce qu'on vit. Là, dans le psaume 145, verset 17 et 18, ça dit, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Autrement dit, quand ça arrive, là, on peut pas faire ben autre chose d'intelligent que de l'invoquer. Il aime ça qu'on l'invoque. Invoquons-le. Il dit, et ça termine le verset 18, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Je pense pas qu'on puisse invoquer le Seigneur avec plus de sincérité que quand on vit des épreuves, quand on vit des difficultés, quand on souffre. Là, on s'adresse au Seigneur. Seigneur, fais quoi? Je suis capable. Il écoute. Et l'autre, le Seigneur est proche, je pense que ça fait aussi référence, le Seigneur est proche, la deuxième venue du Seigneur aussi est proche. Je ne sais pas si vous l'en avez, moi je pense que ça, c'est intuitif. Moi, personnellement, j'ai la conviction que le Seigneur est vraiment proche de son retour. Alors, ça devrait être quelque chose qui devrait nous consoler quand on vit des difficultés, de se rappeler que le Seigneur ne nous a pas oubliés et qu'il connaît toutes nos difficultés, qu'il est toujours disposé à nous écouter, à nous aider, à nous consoler. Puis, en plus, on sait que ça achève. Moi, en tout cas, j'ai la conviction que ça achève. À un moment donné, des fois, j'ai ça, on discute des fois le matin en prenant le café. Je rêve du jour où le Seigneur va revenir, comme ça dit, il va revenir en gloire, il ne reviendra pas en bébé, puis que tout le monde va saisir qu'est-ce qui se passe, et les méchants de la terre vont tellement être terrorisés qu'ils vont vouloir aller se cacher dans les trous de la terre. Je dis à Lucie, j'espère que le Seigneur va me donner la vie pour que je vois son retour et je vois l'effet que ça va faire sur les hommes méchants, les hommes qui font des choses extraordinairement méchantes sur la terre. Et plus particulièrement, je dirais, dans notre époque. Je crois bien qu'on a toujours été méchants dans toutes les époques. Mais je pense que les dernières années, là, les 5-6 dernières années, il s'est passé des choses tellement graves sur la terre. Alors, on a-tu hâte qu'il revienne, selon vous? Reviens, Seigneur Jésus, Maranatha. Reviens, Seigneur Jésus. On attend pour toi. Sa deuxième venue, à mon avis, est imminente. Celui qui espère vivement que le paradis sera bientôt le sien formera des attentes très modérées de ce que le monde peut nous fournir. 1 Pierre, chapitre 1, verset 4 à 9. Ça dit, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, il y a deux choses qui nous sont parlées. Il parle de l'héritage, puis il parle du fait que Dieu nous garde. Peu importe ce que le Seigneur permet qu'on traverse. Il permet toujours les choses pour nous améliorer, pour nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Si on oublie ça, là, on part dans des mauvaises trails en disant « Ah ben là, il m'a oublié, puis là, il ne m'oublie pas, puis là, je prie, puis il ne répond pas, puis... » On retourne sur notre nombril, puis nous monter vers lui. Et là, ça dit, verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie. » Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et le dernier point, le troisième point, c'est réjouissez-vous l'expression de la sainte joie. Autrement dit, quand quelqu'un se met à faire ça de façon régulière, qui replace les yeux sur Christ, il va se produire quelque chose. Et ça nous dit dans le verset 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez. Les êtres humains, on passe nos journées, littéralement, à s'inquiéter de ci, à s'inquiéter de ça, mon garçon, ma fille, mon frère, mon beau-frère, mon voisin, mon confrère, mon collègue. On passe notre temps à nous inquiéter de tout. Quoique c'est pas nouveau comme concept, parce que dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit de ne pas nous inquiéter de rien. Mais c'est plus fort que nous autres. Plus fort que la police. C'est vrai, on est porté à s'inquiéter de tout. Mais ça dit, dans le verset 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, » ça veut dire quand tu as envie de broyer, quand tu as envie, peu importe ce que tu vis, « en toute occasion, peu importe l'occasion, en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu. » Tu vas voir le Seigneur, tu dis « Là, Seigneur, ça va pas, je souffre. » Et là, il faut que tu fasses de quoi? Parce que ça n'a plus d'allure. Demandez devant Dieu. Et là, ça nous dit la recette. Par des prières et par des supplications. Et il y a une troisième chose qui est rajoutée, avec des actions de grâce. Quand ces choses-là arrivent, il faut prier de façon constante. Dans nos têtes, on n'est pas obligé de nous mettre à soirée de prière pour prier. On n'est pas obligé d'être toujours à faire notre petit culte de couple, notre petit culte de famille pour prier. On peut prier en tout temps. Tout temps, c'est peu importe ce qu'on vit, on présente nos choses devant le Seigneur, et il sait ce qu'on vit, et il va vous accueillir, il va nous accueillir. Et ça dit, et, regardez le verset 7, c'est le plus beau, quand on étudie ce jour-là, et la paix de Dieu. Qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que peu importe notre compréhension de ce que c'est la paix de Dieu, ça dépasse ça. Ça dépasse toute compréhension qu'on peut avoir de la bonté de Dieu. La paix de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Et ça dit, et les versets sont là, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence qu'on peut en avoir, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors la manière d'éviter, c'est pas s'inquiéter. Notre tendance, bien sûr, c'est de s'inquiéter en tout temps, en toute chose. La Bible nous donne l'antidote, les moyens de ne pas se livrer à cette faiblesse qui déshonore Dieu. Mais en toute occasion, n'oublions jamais cela, toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, l'exposition de nos demandes devant Dieu, ça veut dire que peu importe ce qu'on vit, on se devrait toujours d'aller au trône de la grâce, tout le temps, tout le temps. Donc, l'universalité de nos problèmes et l'exclusivité de l'endroit où on peut aller se divider le cœur. Va pas dire ça à ton beau-père, à ta belle-mère, à ton frère, à ta sœur, à tes compagnons de travail. Tu trouveras pas de consolation. Tu peux en trouver un peu, mais pas celle de Dieu. Alors, en toute circonstance, en toute occasion, on peut dire, peu importe nos circonstances et l'état de notre âme. Nos circonstances, c'est tout ce qui nous entoure. L'état de notre âme, il y a des fois qu'elle est dans les highs, puis il y a des fois qu'elle est dans les lows, vers les lows. J'ai connu les deux. Nous autres aussi. La prière, c'est converser avec Dieu. Nous devons prendre plaisir à converser avec celui dont la présence est notre plus grande joie. Notre amour pour la prière est donc un indice certain de notre amour pour Dieu. Plus nous l'aimons, plus nos prières seront constantes, nous apprendrons à prier toujours en toute occasion, grand et petit. Je me souviens d'une dame que j'ai connue il y a plusieurs années. Elle voulait monter, c'était une personne âgée, elle voulait monter, disons, pour aller chercher une tasse qui était, il fallait qu'elle monte sur une tasse. Puis là, elle me disait tout le temps, elle me disait ça, moi, puis elle priait tout le temps. Seigneur, attention, ta petite bête, elle monte sur un escalier, là, en tout temps, peu importe des choses qui paraissent insignifiantes, qui paraissent tellement petites qu'on n'ose même pas les présenter à Dieu. Non, on peut tout présenter à Dieu, même les choses les plus petites, et nous devons en avoir l'habitude. Et des supplications, des prières, il y a une différence entre une prière et une supplication. Une prière, c'est que on s'assoit autour d'une table, on prie, on vient à la soirée de prière, on exprime des choses, des besoins. Une supplication, c'est quand tu dis, Seigneur, t'es capable. C'est ça une supplication. Je t'en supplie, fais quelque chose. Il nous dit de m'en avoir, il nous dit pas, ben là, viens pas me faire tes grands airs de supplication. Il dit, par des prières et des supplications, et là, il n'oublie pas quelque chose, avec des actions de grâce. Ça veut dire, quand on est dans cet état-là, qu'on se présente devant Dieu, il faut absolument se rappeler les innombrables bénédictions, les innombrables miséricordes que le Seigneur a eues pour toi dans ton passé. Il faut que tu pries, que tu supplies, mais tu n'oublies pas, oh, Seigneur, je me souviens que tu as déjà eu telle à telle occasion. Puis, il ne faut pas être pur d'en mettre, parce qu'il y en a plein. Il y en a tellement plein que je suis totalement convaincu que quand on fait ça, prier et supplier, on en nomme quelques-unes, mais on est loin. On est loin d'épuiser tout ce que le Seigneur fait pour nous autres. Et le verset 7, ben là, c'est le dessert. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera... C'est qui va garder vos cœurs et vos pensées? La paix de Dieu. Mais il nous dit, la recette, faut que tu pries, faut que tu supplies, faut que tu fasses des actions de grâce. Et il dit, la paix de Dieu va garder ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Alors, si je recommande depuis le début, je dis, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, peu importe ce qu'on vit, si on a notre esprit, nos yeux fixés à la bonne place. Et si on médite, si on prie, si on écoute les moyens qu'il nous dit d'utiliser, si on les utilise, ça va arriver. Mais quand la Bible nous dit la paix de Dieu, c'est pas la paix des hommes, c'est la paix de Dieu, ça surpasse toute compréhension qu'on peut en avoir. Même avec notre compréhension la plus haute, la plus élevée, la plus subtile, la plus foutue-là, il dit que ça dépasse toute intelligence. Intelligence dans le sens de la compréhension. Ça dépasse toute compréhension, la paix de Dieu. Puis il nous dit que ça va arriver. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix divine, c'est quelque chose de profond, de bénissant et d'imperturbable, chose qui ne changera pas. Une paix ineffable, les Écritures utilisent le mot ineffable, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver de mot pour exprimer ça. Paul, quand il était ravi, il le dit, c'est quelque chose d'inexprimable, c'est quelque chose que tu vis de l'intérieur, c'est quelque chose que le Seigneur te donne. On vise ça ou on ne vise pas ça? Moi, la paix de Dieu, là, la veux. Est-ce que je prends les moyens pour l'obtenir? Est-ce que je demande à Dieu? Hier, j'écoutais un sermon de Paul Rocheux, ceux qui le connaissent. Il y avait un sermon sur la puissance du Saint-Esprit. Un bon sermon comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. Dans les Écritures, le Seigneur, il dit qu'il va donner l'Esprit à ceux qui le lui demandent. Là, on se dit, ben là, pas pour lui demander l'esprit, je l'ai déjà, je suis régénéré, le Saint-Esprit habite en moi, oui, c'est vrai. Pas ça qu'il parle. Il dit que si tu demandes à Dieu le Saint-Esprit, il va te le donner. On se devrait de le demander en tout temps, quand on lit la Bible, dans nos relations avec nos frères et sœurs, dans les sermons, dans tout. Donc, c'est une paix qui ne peut être exprimée par des paroles, car elle dépasse toute intelligence. Et vous remarquerez, la dernière partie, c'est vraiment, le mot j'utilise ce mot-là souvent, parce que je l'aime beaucoup, Christocentricité. Tout est centré sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la personne de Christ devient exclusive et devient permanente en tout temps et en toute chose. Merveilleux. Trois applications du texte d'aujourd'hui. La réjouissance du cœur est un commandement. Elle est possible peu importe nos circonstances, et elle est possible toujours. Ce petit passage-là, il y a de quoi à nous faire, il y a de quoi à méditer là-dedans. Il y a de quoi à méditer là-dedans, vous le dites. La deuxième, c'est lorsque la réjouissance en Christ est pratiquée, les fruits sont manifestes et visibles aux yeux de tous. Autrement dit, si on fait ce qu'il dit, notre joie, notre sérénité, notre paix intérieure, tout le monde va l'avoir. Pas juste les gens de l'Église. Quand tu vas être en dehors, les gens vont l'avoir aussi. Tu bouges ou c'est pas beau? Nous honorons Christ si elle est authentique et elle lui rend gloire. Troisième point, dernier point. Sachons éviter de s'inquiéter par sa grâce et par l'utilisation des moyens prévus par le Seigneur. Les prières, les supplications, les actions de grâce et le fruit final sera la paix de Dieu. Comment certain que je n'avais pas connu la paix de Dieu? Comment certain que je n'ai pas connu la paix de Dieu? C'est facile de le dire les autres, au Saint-Dieu. Comment certain que je n'ai pas connu la paix de Dieu? Une paix, là, on dirait que peu importe ce qui arriverait, là, je suis toujours en Christ, je suis toujours ancré en Christ. Puis quelque part, je suis tellement absorbé par tout ça. Alors, il nous dit les moyens, les prières, les supplications, les actions de grâce. Et le fruit final sera la paix de Dieu. Implorons le Seigneur de nous donner la capacité d'obéir pour sa plus grande gloire. Quand il dit d'obéir, c'est réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que notre grand et glorieux Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit béni, loué et exalté à tout jamais.